Radio Quiche. On se prend pas la tête. Bonsoir à tous, il est 23h, bienvenue dans Déconne Info, le journal qui déglingue l'info la nuit, pour ceux qui ne dorment que d'un œil. Bonsoir Florence.
Bonsoir Karine. Ce soir, en guise de sommaire, nous vous proposons un billet d'humeur qui vous parlera des complotistes. Tout est écrit, prévu, téléphoné.
Ils sont partout.
Téléphoné ? Karine et Valérie ont peut-être des informations sur le fameux coup de fil entre Poutine et Trump. Ce fameux téléphone rouge qui n'est ni rouge, ni un téléphone d'ailleurs, car il n'a ni combiné, ni cadran à chiffres. C'est une liaison secrète, fermée. Ça vous parle ? Les dirigeants nous mentent, tout est joué d'avance.
Il n'y a qu'à voir. Pour les championnats du monde de handball, dont nous parlera Sylvain tout à l'heure, on va être champion du monde pour la 6e fois, c'est sûr. Parce que c'est truqué, c'est déjà joué d'avance. Mais si, c'est en France. Et les joueurs sont 6 sur le terrain, plus le gardien, ça fait 7. Le chiffre 7, le chercheur de vérité. Et dans la Bible, c'est la bénédiction de Dieu. C'est aussi l'aboutissement de notre création par Dieu. C'est l'aboutissement. On va gagner, vous verrez.
Ensuite, c'est Charlotte qui nous annoncera que le 1er mai aura lieu le rassemblement Black Shoes à Tignes, dont le point d'orgue sera un slalom géant entre 700 humains.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est un rassemblement international de télémarqueurs. Le télémarque, le sport de glisse qui a pour devise talent libre, esprit libre. À chaque virage, la géniflexion dessine inlassablement le triangle des Illuminati.
Les Illuminati, la plus ancienne et la plus secrète des organisations des maîtres du monde. Pour eux, le peuple est par nature ignorant et stupide. Pour éviter cela, Amel vous présentera les sorties culturelles du week-end à Lyon, pour prendre l'air.
L'air, et la pollution de l'air, on en parle ? Isabelle et Evelyne feront un micro-trottoir. Ces derniers jours, ça ne nous a pas échappé. Notre air est de plus en plus pollué. Soi-disant, les particules fines seraient les responsables. Des poussières issues de combustion qui ne sont pas totales. Est-ce qu'on se pose les bonnes questions ? Est-ce que ça ne serait pas plutôt des chemtrails, ces produits chimiques que les avions militaires des gouvernements répandent dans le ciel sur nos têtes ?
Et puis dans l'eau, Sophie et Marie enquêtent sur la qualité de l'eau à la Croix-Rousse. Mais nous parlerons-elles des souterrains et du célèbre réseau des arêtes de poissons sous la Croix-Rousse ? Réseau que non seulement on ne peut pas visiter, mais le pire du pire, c'est qu'on ne sait presque rien. Mystère.
Mystère, comme l'invité mystère de Guillaume Elor. Là encore, nous ne savons rien pour le moment.
Allez, trêve de plaisanterie. Ouvrez l'œil.
Et surtout les oreilles, car voici les vraies infos.
On commence avec les actus sur les sorties culturelles du moment avec Amel. Bonjour Amel.
Bonsoir. Alors, si vous ne savez pas quoi faire ce week-end à Lyon, voici quelques idées. On va commencer par du cinéma. Petit voyage dans le temps avec un film de Thierry Frémaux, Lumière, l'aventure commence, sorti en salle mercredi. Ce documentaire, réalisé et commenté par le directeur de l'Institut Lumière de Lyon, réunit une centaine de chefs-d'œuvre, mais également des perles méconnues, qui révèlent le travail de ces pionniers du cinéma. Passons maintenant au mois de la danse, aux subsistances de Lyon. Vous avez un mois pour voir de la danse, parler de la danse et bien sûr danser. Vous aurez l'occasion de découvrir des spectacles, des ateliers, des rencontres et des expositions. Vous pourrez également participer à des cours de danse minute. Premier atelier ce samedi 28 janvier de 10h30 à 12h30 à la station de métro Bellecour. C'est gratuit, sans réservation, alors profitez-en. Exposition. Vous avez jusqu'au 6 mars pour découvrir une exposition exceptionnelle sur Henri Matisse au Musée des Beaux-Arts. On connaît tous, plus ou moins, le peintre et ses œuvres, mais moins le dessinateur. Cette exposition met en avant le travail préparatoire de ses plus grands chefs-d'œuvre. Côté théâtre, au TNP de Villeurbanne se joue jusqu'au 12 février la tragédie du roi Christophe d'Aimé Césaire, mise en scène de Christian Scaretti. Pièce de 3 heures qui s'ouvre par un combat de coq à Haïti pour refléter les querelles politiques en 1806 entre Alexandre Pétion et Henri Christophe qui se disputent la succession du régime tyrannique de Jean-Jacques Dessalines. autre événement, le Festival de sport, littérature et cinéma, du 26 au 29 janvier à l'Institut Lumière de Lyon. Au programme, des expos, des projections, un salon du livre sur le sport, mais également des rencontres avec des écrivains, des cinéastes et des sportifs tels que Sarah Ouramoun, qui est championne de boxe des JO de Rio. Et pour finir, à l'occasion du Nouvel An chinois, de nombreuses festivités sont prévues samedi 28 janvier dans le quartier de Guillotière, avec le traditionnel défilé autour de la rue Pasteur et de la rue de Marseille. L'Office du tourisme organise également une visite du nouvel Institut franco-chinois à Lyon 5e. Alors bon week-end à tous et à très bientôt.
Merci.
Merci à vous.
Voiture père ou impair, vignette...
On continue sur notre environnement local avec le reportage d'Isabelle et Evelyne sur la pollution atmosphérique. Bonsoir Isabelle, bonsoir Evelyne.
Bonsoir. Après Paris, Lyon est touchée par les mesures de restriction de circulation liées à l'augmentation de la pollution atmosphérique. Radio Quiche a voulu savoir si les Lyonnais sont informés de ces mesures qui les touchent et ce qu'ils pensent de leur efficacité. Nous avons rencontré quelques-uns d'entre eux et nous leur avons posé quelques questions.
Voiture paire ou impaire, vignette la première et numéro 1, numéro 2, et ensuite les personnes en situation de handicap.
D'accord. Vous êtes concernée par...
Oui, je suis concernée, j'ai une voiture, mais on ne comprend pas grand-chose des fois. Hein.
D'accord, donc vous l'utilisez
Je l'utilise.
Quel que soit le jour.
Bah, un petit peu, oui. J'en ai besoin professionnellement, donc oui.
Est-ce que vous avez l'intention...
Oui, j'ai une voiture et je suis concernée parce que je vais faire de la route pour ma rééducation. Et donc, j'ai demandé ma vignette pour être conforme, mais aussi j'ai mon badge d'invalidité que je mets bien en évidence pour ne pas me faire disputer.
Très bien.
Bah après, si c'est bénéfique avec les résultats des examens qu'on passe et qu'on voit que ça apporte quelque chose, je pense que ça peut être prolongé. Se servir du covoiturage, plus des transports en commun, ça peut être utile.
Il a l'air simple à ouvrir.
Il faut, parce que moi personnellement je suis vraiment impactée par la pollution, ça me crée des migraines et tout ça. J'ai pas senti un réel mieux, mais bon, si ça peut aider, c'est toujours ça. Ouais.
Légèrement pour la pollution, je pense pas. Enfin, avec toutes les industries, le chauffage, tout ça, il y a aussi des choses à faire. Il n'y a pas que les voitures. Même si la voiture, même si c'est un petit peu, c'est mieux que pas grand chose, mais bon, Lyon est une ville extrêmement polluée, donc voilà.
On enchaîne avec le micro-trottoir de Sophie et Marie, toujours à propos de notre environnement, mais cette fois-ci, les passants seront interrogés sur la qualité de l'eau à la Croix-Rousse.
Aujourd'hui, vendredi 27 janvier 2017, nous voici au cœur d'un des marchés de la Croix-Rousse. Suite à une enquête de l'UFC Que Choisir sur la qualité de l'eau de chaque commune de France, nous souhaitons interroger des citadins sur leur consommation d'eau.
Bonjour madame, nous faisons une enquête sur l'usage de l'eau et on voudrait savoir quelle eau vous consommez quotidiennement.
L'eau toute bête, l'eau du robinet.
Et pour quelle raison est-ce que vous consommez l'eau du robinet?
Parce qu'il me semble qu'elle est bonne. Elle me convient.
Vous nous avez dit que vous consommiez de l'eau en bouteille. Pourriez-vous nous donner les raisons, s'il vous plaît?
Oui, parce que je consomme, moi, essentiellement bio. Donc, pour moi, c'était cohérent de consommer aussi des bouteilles minérales.
Et une enquête a prouvé que l'eau du robinet était de bonne qualité. Est-ce que cela vous permettrait de changer votre pratique?
Éventuellement pour moi, les enfants, peut-être pas.
Et est-ce que vous pouvez nous mentionner les raisons pour lesquelles vous buvez l'eau du robinet?
Ça coûte moins cher que l'eau minérale.
Donc en dehors de l'aspect économique, est-ce qu'il y a d'autres raisons qui font que vous buvez l'eau du robinet?
Bah, j'ai toujours habitué à boire de l'eau du robinet et puis il n'y a pas de grosse différence de goût pour moi.
Est-ce que vous pouvez nous donner les raisons pour lesquelles vous buvez l'eau du robinet?
parce qu'elle est moins chère et qu'elle est potable et qu'il n'y a pas de souci avec.
Et est-ce que vous avez connaissance du contenu et de la qualité de l'eau du robinet ?
C'est écrit sur nos factures. On regarde ça sur le site internet, je crois, et on peut voir ce qu'il y a. Bon, elle est potable à Lyon, plus que dans les campagnes apparemment.
Donc vous avez eu vent de l'enquête de l'UFC Que Choisir qui a été publiée jeudi ?
Exactement, à la télévision, voilà.
Donc vous savez que l'eau à Lyon est bonne. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques arguments qui inciteraient ceux qui boivent de l'eau en bouteille à consommer celle du robinet ?
D'un point de vue écologique déjà, c'est quand même beaucoup mieux. D'un point de vue prix aussi. Je crois qu'il faut un peu apprendre aux gens ce genre de choses. Voilà.
Consommer de l'eau du robinet et, ou de l'eau en bouteille ?
Je consomme les deux à la Croix-Rousse.
Pour quelle raison est-ce que vous consommez les deux ?
C'est pour varier, mais l'eau est très bonne à la Croix-Rousse, il n'y a aucun problème. Je connais un petit peu le sujet, à comparer à l'eau d'Arles, par exemple, qui est vraiment pas bonne à la consommation et qui a un très mauvais goût, celui de la Croix-Rousse, Lyon en général, je pense. En goût, il est bien. Et l'eau du robinet est très bonne à boire, il n'y a aucun problème.
Pour les gens qui refusent de boire l'eau du robinet, quels sont les arguments que vous leur donneriez pour les inciter à changer leur consommation ?
Je pense qu'il doit y avoir des sites de la mairie du Grand Lyon, justement pour voir le taux des eaux. Je ne connais pas tant que ça, mais je pense que c'est assez clair sur ce sujet-là. Il faut se renseigner.
On passe aux nouvelles de l'international en accueillant Karen et Valérie. Bonsoir à toutes les deux.
Bonsoir.
Une semaine après son investiture, Donald Trump s'apprête à téléphoner à Vladimir Poutine pour un premier contact officiel. Les deux hommes se connaissent déjà. Des accusations de piratage informatique avaient été lancées lors de la campagne présidentielle.
Au milieu de ce combat de chef, comment les habitants de notre paisible Lugdunum perçoivent-ils l'arrivée au pouvoir de Donald Trump et le renforcement du pouvoir de Poutine ? Place donc à notre micro-trottoir consacré à cette brûlante question. Comment voyez-vous l'avenir du monde avec Trump et Poutine ?
On nous laisse un peu tranquille avec Poutine et Trump, hein. Parce qu'en France, c'est pire. On voit ce qui se passe ailleurs et chez nous, on ne voit pas.
Je ne connais pas trop en politique, mais je sais que d'après les émissions qu'on regarde et tout, ça fait peur à tout le monde, quoi. Je veux dire, il veut installer des choses que Obama avait fait. Et, enfin, franchement, j'en suis pas convaincue. Moi, j'ai peur pour l'avenir, hein. Ça me fait peur.
Ouh là là, la catastrophe. La catastrophe, ce sont des gens qui ne tolèrent pas les autres, qui, surtout pour Trump. Quand je vois ce qui se passe avec le Mexique, pour moi, c'est tout simplement abominable, quoi.
Je veux le garder pour moi, en fait. Je veux pas débattre là-dessus.
Non,
ouais, j'ai peur de vous choquer.
Justement, c'est un micro-trottoir.
Hein, ouais, non, mais voilà. Bon, il fait peur un petit peu à tout le monde, Trump, mais je pense que ça va faire du bien à beaucoup de choses. Voilà, je sais pas comment le dire, mais moi, j'aurais été américain, j'aurais voté Trump. Il fera peut-être pas deux mandats, mais bon, s'il fait 4 ans, il va peut-être faire un petit peu de nettoyage, entre guillemets, quoi. Mais il faut pas qu'il reste trop longtemps, voilà. Hein. Mais 4 ans, c'est bien.
On va droit vers l'apocalypse.
Ouais, c'est clair.
Je sais pas, ça, il va y avoir une escalade entre les deux, ouais, qui vont surenchérir l'un et l'autre, et puis... Ouais, ça va. Ça va être certainement dégénéré. Enfin, on peut imaginer.
Il commence à signer des décrets à tout va. Et en gros, il montre qu'il a le pouvoir, puis qu'il peut faire un peu tout ce qu'il veut. Puis c'est un peu sous les yeux ébahis du monde. Et puis ça va pas s'arrêter, quoi.
À
Allez, on se détend un peu, on aborde les bonnes nouvelles avec Sylvain. Il va nous expliquer si nous allons être champions. On écoute.
Bonsoir, plus de 30 000 personnes se sont donné rendez-vous ce soir à l'Accor Arena à Paris. Les Bleus sont archi favoris de ce match, surtout après avoir éliminé la Suède, équipe surprise, et en pleine ascension dans la hiérarchie mondiale. Une élimination serait une véritable catastrophe pour l'équipe de France, mais le public semble confiant et entame une joyeuse et vibrante Marseillaise. La France donne le coup d'envoi de cette demi-finale. Les experts vont devoir faire face à une pression après avoir gagné 5 titres de champion du monde. Mais on n'imagine pas une seconde que la Slovénie puisse... Mais attention à ne pas faire preuve de trop de suffisance et à rentrer tout de suite dans le match. En première mi-temps, la France domine son sujet et laisse la Slovénie à distance respectable. À la mi-temps, la France possède au moins 4 buts d'avance. Jusqu'ici, tout va bien.
Bien parti pour les Bleus. Aubameyang n'a pas pu s'en sortir là sur ce dernier.
Le début de la deuxième mi-temps est un peu plus crispé pour les Bleus. La Slovénie s'accroche et gêne parfois l'équipe de France par un jeu rapide, à défaut d'être athlétique. La baisse de régime des Bleus est rapidement compensée par la partie exceptionnelle du gardien Vincent Gérard, qui a relégué notre titi national sur le banc des remplaçants. Un match sans surprise donc, mais avec une surprise de taille, le déclin de Thierry Omeyer, qui a rendu tant de services à l'équipe de France. Et voilà, c'est fait, la France s'impose logiquement sans trembler, 31-25. Le public se lâche et entame une nouvelle Marseillaise.
Ce sera ou la Norvège ou la Croatie, on le saura demain. Mais Vincent Gérard et les experts sont en finale et on aura le bonheur, après le respect entre Dinard et Vujovic, le bonheur de vivre ça avec vous à partir de 17h30, un petit peu avant bien sûr, mais à partir de 17h30.
Et la qualité de Singhessar à l'arrivée, ouais. Et bien les Slovènes marquent.
On l'avait évoqué, hein.
Et voilà, c'est fait, la France s'impose logiquement sans trembler, 31-25. Le public se lâche et entame une nouvelle Marseillaise.
Quand on n'est pas handballeur et qu'on est footballeur et qu'on joue au Paris Saint-Germain, écoutez, Blaise Matuidi qui était là ce soir, il est au micro de Christophe Abel.
Blaise, vous êtes venu en voisin, qu'est-ce que vous avez ressenti ce soir?
Ouais, beaucoup d'émotions, voilà, ils nous ont fait vibrer, ils nous font vibrer durant toute cette compétition, j'espère que ça va continuer dimanche, c'est beau, voilà, devant un magnifique public.
Alors moi j'ai envie de dire, vas-y Titi.
Allez les Bleus.
Allez, changeons de sport, Charlotte nous embarque en Norvège pour nous faire découvrir un sport d'hiver peu connu, le télémark. On écoute.
Le télémark à la découverte de la génuflexion. Quelle est cette secte d'adeptes de la génuflexion qui ont pour précepte talent libre, esprit libre? Des Illuminati? Non. Qu'est-ce que le télémark? Tout simplement l'ancêtre du ski alpin. Le télémark est né en Norvège, dans la province du même nom, au XIXe siècle. À l'origine de son invention, un charpentier, Sondre Norheim, qui devait, pour rejoindre son village, parcourir plusieurs kilomètres à pied. Or, cet homme était très fainéant. Pour s'éviter des efforts, il mit au point une fixation en osier avec le talon libre sur des skis en bois, afin de faciliter les déplacements sur les collines. Ça y est, le télémark était né. En quoi consiste la technique? Notre charpentier fainéant imagine de plier le genou interne pour tourner avec ses skis, qui se trouvent alors en phase de convergence, entraînant un pivotement complet. Sondre Norheim réalise alors le premier virage de l'histoire du ski moderne. Au XXe siècle, le télémarque est supplanté par les techniques avec talons fixés et virages parallèles, qui étaient plus performantes en termes de vitesse, mais aussi plus aisées avec l'évolution du matériel. Ces techniques sont issues du style Christiania, adapté avec l'importation du ski dans les Alpes. Elles deviennent le ski alpin. Le télémarque renaît dans les années 70 grâce à des moniteurs norvégiens exilés aux USA. Après des dizaines d'années d'absence, le télémarque revient en Europe, par la Suède d'abord, puis la Norvège, où se trouve encore aujourd'hui la plus grande concentration d'adeptes de pliage de genoux. Les compétitions sont nombreuses, championnats nationaux, d'Europe et même Coupe du Monde. Pourquoi la devise talon libre, esprit libre? C'est la devise de tous les télémarqueurs. Le fait d'utiliser des skis laissant les talons libres de toute contrainte permet de skier l'esprit léger. Et en France, qu'en est-il? Les pratiquants sont de plus en plus nombreux dans toutes les stations. D'ailleurs, depuis 25 ans, a lieu à Tignes, lors du premier week-end de mai, un grand rassemblement de télémarqueurs. Cette année, ils étaient plus de 700 adeptes de la fente à suivre le précepte de talon libre, esprit libre, lors d'un slalom humain géant.
On termine avec Guillaume et Laure. Bonsoir tous les deux.
Bonsoir.
Bonjour.
Alors, quel est cet invité mystère?
Bonjour à toutes et à tous. Je vous donne rendez-vous aujourd'hui pour une interview exclusive d'un illustre invité, à savoir notre ancien président Nicolas Sarkozy, qui nous reçoit dans sa vaste demeure.
Bonjour.
Alors, première question, monsieur Sarkozy, où habitez-vous depuis que vous avez quitté la vie politique?
Bon, comme vous le savez, puisque vous y trouvez, j'habite en Corrèze. Et j'attends mon voisin, François Hollande, qui ne va pas tarder à me rejoindre au milieu des vaches et des moutons.
Et quelles sont vos nouvelles activités depuis votre échec récent en politique?
Je vous coupe tout de suite, ma très chère petite dame. Ce n'est pas un échec. C'est une simple non-élection primaire de la droite des Républicains, des gens trop ordinaires qui ne proposent rien. Et sinon, pour répondre un peu plus sérieusement à votre question, en toute humilité, en toute simplicité, en toute modestie, ma très chère petite dame, j'ai changé. Eh, oui, j'ai changé, je suis maintenant officiellement le berger du coin. Eh oui, j'aime mon métier parce qu'on se lève tôt. Et comme vous le savez, comme je l'ai déjà dit, j'aime les gens qui se lèvent tôt.
Et néanmoins, que faites-vous des casseroles que vous semblez traîner derrière vous?
Attendez, ma petite dame. Attendez, vous êtes en train de déborder le poisson du vase. Moi, j'ai rien fait. Qu'est-ce qu'on m'accuse à moi? Emploi fictif, affaire Big Magnon, affaire quoi? Avantages financiers des grands patrons, affaire Bettencourt, affaire des écoutes, et j'en passe. Mais c'est pas moi, ça. C'est l'autre, c'est Paul Bismuth.
Et comment votre famille s'adapte-t-elle à ce nouveau style de vie?
Eh bien, ma foi, ma famille se porte bien, car l'état va bien, elle est occupée à la traite des vaches. Elle est vraiment dans son élément. Elle a toujours aimé les bêtes. Regardez-moi, avant de la connaître, j'étais une vraie brute. Depuis, j'ai changé.
Et vos enfants arrivent-ils à s'adapter à leur environnement?
Eh bien, tout d'abord, le petit Louis a grandi, il va prochainement être maire de Tulle. Hein, c'est génial. Chez nous, la politique, elle se fait de père en fils. Et je serai là pour l'accompagner. Je serai son ambassadeur en toute humilité, en toute simplicité et en toute modestie. Comme ça, il ne perdra pas le fil. Et qu'il ne pédale pas dans la purée. Hein. Et quant à Julia, puisque vous me posez... Ah ben non, vous n'avez pas posé la question. Alors attendez, il y a le technicien des micros qui me regarde. Ah non, il ne me regarde pas en fait. Bon, je reprends pour Julia... enfin, non, je la reprends pas elle, mais je reprends le flambeau. Enfin, il n'y a pas de flambeau ici, mais je reprends le flambeau. Enfin, vous m'avez compris. Bon, eh bien, je vais vous le dire. Elle fait ses dents. La dernière fois, je vais vous raconter une anecdote, d'ailleurs.
Et quel genre d'anecdote?
Eh bien, je vais vous le dire, justement. Julia, avant sa rentrée scolaire, elle a mangé son hamster Pomelo, le pauvre. Il ne méritait pas ça.
Une dernière question que tous les Français se posent, parfois avec angoisse.
Allez-vous revenir en politique ?
Écoutez, c'est une question très difficile que vous me posez là. D'un point de vue politique, je suis en capacité de revenir, d'être un élément décisif pour l'avenir de la France. Mais en attendant, vous allez rentrer les bêtes à l'étable.
Eh bien, merci, Monsieur Sarkozy, de nous avoir reçus avec toute l'équipe de Radio Quiche. Au revoir et à bientôt.
Eh bien, ma petite dame, au revoir et merci bien. N'oubliez pas la facture, car j'en ai besoin. Vous savez, les agriculteurs sont assez mal payés.
Eh bien, ce sera le mot de la fin, Guillaume et Camille. Aujourd'hui, à la technique, il y a eu Benoît, Julie, Nathalie et Thierry. Merci à eux.
Nous allons ainsi nous quitter, mais n'oubliez pas.
Ouvrez-le et ne vous laissez pas endormir.